verset qui est dans le livre de Jérémie, chapitre 29 et le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà un texte très simple, mais me semble-t-il très important. Cette recommandation, fortement appuyée, est dans la pleine volonté de Dieu. J'imagine qu'en tant que chrétien, vous êtes désireux de faire la volonté de Dieu. Et il arrive parfois, j'imagine aussi pour vous, que cette volonté, on a un petit peu de mal à la percevoir. On prie, on demande au pasteur, on demande à quelques chrétiens, voilà, et on a de la difficulté. Et on aimerait quelquefois que Dieu soit un peu plus clair, un peu plus précis, un peu plus rapide, pour nous indiquer si je dois faire ou si je ne dois pas faire, si je dois aller ou si je ne dois pas aller. Mais ici, je n'ai pas besoin de dire, bon, dites-moi, est-ce que je dois rechercher le bien des gens de la ville d'Annecy? Je n'ai pas besoin de poser la question. Parce qu'ici, il m'est dit que je dois rechercher le bien de la ville où je suis. Donc, perdons pas de temps pour savoir s'il faut le faire ou pas le faire, puisqu'il nous est dit qu'il faut le faire. Elle est clairement exprimé. Et il y a deux éléments. Je dois rechercher le bien de la ville où je suis, et il est dit que mon bonheur dépend du sien. L'atmosphère qui va régner sur la ville, eh bien, va avoir une répercussion sur mon propre mode de vie. Si la ville est paisible, je vais vivre paisiblement. Si la ville, c'est une ville de gangsters, si tous les soirs on ramasse trois morts dans les cités, je vais être en alerte, je vais être inquiet. Mon bonheur dépend de l'atmosphère, de la contrée dans laquelle je suis. Alors, clairement, ça veut dire quoi? Eh bien, vous devez rechercher le bien des habitants d'Annecy. Si vous habitez un village autour, petit village de montagne, vous devez rechercher le bien de ce village. C'est clair? Alors, après, on peut agrandir, on peut rétrécir. Je vais rechercher le bien de la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie ici. Je vais rechercher le bien de la grande région. Je vais rechercher le bien de mon pays. Je vais rechercher le bien de l'Europe. Je peux rétrécir. Je vais rechercher le bien de ma famille. Au sens large, de ma famille, le papa, la maman, les enfants. En fin de compte, je vais rechercher le bien de mon prochain. Mon prochain, ce n'est pas celui qui habite au bout du monde, que j'aime de tout mon cœur, mais que je rencontrerai jamais. Mon prochain, c'est celui qui est à portée de main, qui est à portée de voix. Je dois rechercher le bien de ceux qui sont autour de moi. Et pour ce faire, quelle doit être mon attitude? En fin de compte, elle est très simple. Je dois être attentif à la parole de Dieu. Parce que juste un peu plus haut, verset 4, il est dit « Ainsi parle l'Éternel. » Il a été dit à ces gens « Ainsi parle l'Éternel. » Une parole solennelle. Dieu est intervenu pour dire à son peuple « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Il y avait toutes sortes d'états d'âme. Et il a fallu que Dieu intervienne. Et je crois qu'il faut que nous acceptions que Dieu intervienne pour que certains états d'âme, eh bien, soient mis de côté et que nous puissions mettre, pendant que nous le pouvons encore, notre vie à son service, à sa disposition. En effet, le peuple d'Israël était en grande majorité sur une terre étrangère, suite à la déportation. Ils étaient dans ce contexte particulier. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais bon, il y avait des raisons précises. Ils avaient été vaincus, ils avaient été déportés, ils étaient esclaves. Et là, il y a deux états d'âme qui se sont fait jour. Le premier, ils étaient découragés. Alors leurs oppresseurs leur disaient, « Allez, chantez-nous quelques-uns de vos cantiques, fredonnez quelques-uns de vos refrains. » Et le peuple répondait, « Nous étions assis et nous pleurions. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Ils n'avaient pas le moral. Ils avaient quitté leur terre, ils avaient quitté leur paysage. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas envie de chanter. Ils étaient complètement défaits. Et puis, il y avait un autre état d'âme, un optimisme démesuré. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Alors eux, ils étaient excités comme des puces. Il y a ceux qui pleuraient, qui n'avaient pas envie de chanter, et puis il y a ceux qui étaient là tout excités. Dans 2 ans, on revient à la maison. Et il a fallu une parole de Dieu pour rétablir l'équilibre, pour remettre chacun d'aplomb, parce que les uns et les autres, ils avaient tort. Ils n'étaient pas sur le bon terrain, ils n'étaient pas dans la bonne mentalité, ils n'avaient pas la bonne vision. Et il a fallu une parole solennelle de Dieu. Babylone, ce n'était pas leur avenir, bien sûr. Babylone, ce n'était pas leur terre. Ils s'y trouvaient pour un temps, pour des raisons bien précises. Mais ça demeurait qu'une parenthèse. Et dites-moi, que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux ? Il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. L'apôtre Pierre va même reprendre la même expression. Notre avenir, c'est pas Annecy. Notre avenir, c'est pas Méribel, pour reprendre le nom de cette contrée. Même si vous êtes dans une région formidable, votre avenir, il n'est pas là. Vous êtes là pour un temps. Notre avenir, c'est pas la France. Même si pour tous ceux qui sont loin, c'est un pays de cocagne. Notre avenir, ce n'est pas l'Europe. Notre avenir, il n'est pas là. Nous sommes ici-bas pour un temps. Alors bon, on peut essayer de battre le record de Madame Calment, hein. 100 et quelques, je ne sais plus combien elle avait, 114, 116 ou quelque chose comme ça. Bon, est-ce que c'est souhaitable d'ailleurs de tenter de battre ce record? Je ne sais pas. Mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est qu'un temps. Et dans ce temps-là, je ne suis pas invité à être découragé. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Pasteur, qu'est-ce que c'est dur d'être chrétien dans le monde où nous sommes ?» Ah bon ? Et dites-moi, c'est facile d'être un païen ? descendez au Beaumet à Marseille, allez voir si c'est facile. Faites un tour dans une prison, allez voir si c'est facile. Alors on va pas quand même se faire plaindre, non? Ouais, mais pasteur, le monde, il est méchant. Pourquoi? Vous voudriez que le monde soit bon? Ça serait le monde à l'envers, non? Et puis, je ne veux pas vous inquiéter, mais il est méchant. Mais il va devenir de plus en plus méchant. C'est la parole qu'il dit. Elle dit même que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Le monde est méchant, mais c'est sa nature. Ça ne peut pas être autrement. Mais nous sommes là pour un temps. C'est une parenthèse. Et nous sommes, et c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens en particulier, nous sommes donc invités solennellement dans ce temps où nous sommes ici-bas à servir le Dieu vivant et vrai. Paul dit, on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous avez fait un demi-tour complet, non pas pris une voie parallèle, où de temps en temps on peut se tromper, on met le pied du mauvais côté. Non, vous êtes parti à l'opposé, converti. Comment vous êtes converti à Dieu? En abandonnant les idoles, en vous débarrassant de tout ce qui est inutile, de tout ce qui pourrait vous détourner de la vision du vrai Dieu, vous débarrassant des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et attendre des cieux son Fils. J'ai fait demi-tour un jour. Alors je crois que cet après-midi, il y a des personnes qui vont être baptisées. Donc elles sont baptisées parce qu'elles ont fait demi-tour. Elles ne font pas demi-tour cet après-midi. Hein. Elles ont fait demi-tour, elles se sont converties. Elles ont donné leur vie à Dieu. Et elles concrétisent en obéissant à la parole, en se faisant baptiser, en étant plongées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'enseigne l'Écriture, et maintenant elles vont servir. Elles vont mettre ce temps qui leur reste à vivre ici-bas, eh bien, pour servir Dieu. Sans perdre de vue que il revient. Et qu'à un moment donné, d'une façon soudaine, nous serons enlevés à sa rencontre pour prendre possession de la place qu'il est allé, eh bien, nous préparer. Jésus lui-même, dans la prière sacerdotale, va dire « Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. » C'est-à-dire que nous n'avons pas la mentalité du monde. Mais il dit « Je te prie de ne pas les ôter du monde. » Ils n'ont pas la mentalité du monde, mais ils sont dans le monde. Et je te demande de ne pas les enlever. Je ne vais pas aller au fin fond du désert de Gobi, pour ne pas être tenté, au sommet de je ne sais quelle montagne. Non, je suis dans le monde et je n'ai pas sa mentalité. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que j'en sorte, c'est que j'y reste. Mais il ajoute, je te prie de les préserver du mal. Ils sont dans le monde et je sais que ce n'est pas facile, alors je te demande de les protéger, de les garder, de veiller sur eux. Et je crois que le Seigneur est celui qui nous protège, qu'il nous garde et qu'il veille sur nous. Et il ajoute encore, et je les ai envoyés dans le monde. Et dans ce cadre méchant, tortueux, ténébreux, le Seigneur nous a envoyés. J'ai donc dans le monde un rôle majeur à jouer. Et il faut que je le joue, ce rôle. Et pour ce faire, j'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. J'ai besoin que cette parole atteigne ma vie, me pénètre. Non pas qu'elle ricoche, mais qu'elle me forme, qu'elle me façonne, qu'elle m'édifie, qu'elle m'arme pour affronter les réalités. Jésus dira, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il m'associe à sa victoire. Il m'associe à son triomphe. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, courez dans la carrière qui vous a été ouverte. En ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, considérez ce qu'il a enduré, ce qu'il a souffert, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il y a des raisons d'être découragé. Il y a des raisons de laisser tomber les bras. Il y a des raisons de prendre sa tête dans ses mains et de dire, mais où j'en suis, mais que dois-je faire, pourquoi? Ben, il est dit, fixe tes yeux sur le Seigneur, considère ce qu'il a souffert, ce qu'il a enduré, afin justement que tu ne sois pas découragé outre mesure, que tu reprennes espoir, que tu relèves ta tête. Je vais puiser, chercher en lui les substances, les ingrédients nécessaires pour que ma vie soit nourrie, fortifiée, renouvelée. Donc, je ne suis pas appelé à un optimisme démesuré, superficiel, mal fondé, ce qui ferait de moi un mystique, déconnecté de la réalité. Les faux prophètes disaient, dans 2 ans, on rentre à la maison. Formidable, ça. Hein? Alors, il y a le monsieur, il a 40 ans, il a été vaincu, il est déporté, il est esclave. Et on lui dit, dans 2 ans, tu rentres chez toi. 40 ans, 42 ans, bon, ma foi, correct. Sauf que Jérémie disait, dans 70 ans, vous rentrerez à la maison. Ouh, c'est pas pareil, ça, hein? 40 et 70, ça fait 110. Et d'un coup, le monsieur, il dit, ben, ouf, je rentrerai jamais, moi. Alors, on préférait croire 2 que 70. Le problème, c'est que la vérité, c'était 70. Mais dans ce cas-là, qu'importe la vérité, on s'arrange avec la vérité. Les faux prophètes. Les faux prophètes, il y en a toujours eu. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y en a plus qu'avant. Mais avec les réseaux sociaux, on découvre qu'il y en a beaucoup. Et en général, tous ces faux prophètes, ils vous annoncent que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Ils viennent dans des rassemblements, ici ou là ou ailleurs, et ils disent aux gens que des bonnes choses. Alors c'est sûr que, voilà, ça, c'est flatteur ça, et on le reçoit. Et si par hasard, il y en a un qui dit non, non, mais c'est pas ça, bon non, 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 mais on ne veut pas l'écouter lui. Et aujourd'hui, si sur votre carte de visite, vous ne mettez pas apôtre, prophète, mais vous n'existez pas. Et du coup, il y en a beaucoup, ils ne se gênent pas. Hein. Vous avez l'apôtre de ceci, l'apôtre de cela, qui viennent d'ici, qui viennent d'ailleurs. Le prophète, le prophète, le prophète. Waouh ! Et sur Internet, vous avez beaucoup de choses. Et même sur des sites internet dits entre guillemets évangéliques, ça aurait des surprises. Tout n'est pas mauvais, mais il y en a un peu. Et du coup, on ne sait plus trop. Quelqu'un m'avait abonné à quelque chose. Et tous les matins, je recevais. Et au bout de 3 mois, pas tout à fait, mais... ainsi dire, je supportais plus. je supportais plus de lire ce que je recevais tous les matins. Donc je me suis désabonné. J'ai appelé le pasteur, qui était responsable de ça, que je connais très bien, et je lui dis, voilà, je t'informe que je me désabonne parce que le travail qui est fait, pour moi, c'est pas biblique. C'est lié un petit peu à la méthode Coué, à la doctrine de la prospérité. Alors il me dit, mais j'ai beaucoup de gens qui me remercient. Je dis, oui, bien sûr. Seulement, c'est que des paroles positives. C'est que la grâce, sans les responsabilités. C'est que les avantages, sans les inconvénients. Sans le fait de se positionner. Sans le fait, comme dit Paul, de tenir son corps en bride. C'est une sorte de New Age évangélique. Et pour moi, c'est extrêmement dangereux. Sauf que ça plaît. Alors, je ne dis pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas nécessaire. Mais je risque peut-être, à la sortie, de rencontrer quelques personnes qui vont me dire « Ah ouais, c'est ça ?» Eh oui, parce que la pub, elle est tellement bien faite que beaucoup... Alors, ça ne veut pas dire que c'est à 100% mauvais. Mais ce n'est pas à 100% bon. Parce que ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est quand même « Repentez-vous !» Et vouloir aller au ciel sans passer par cette étape, c'est du leurre. Il faut être dans la vérité. Alors aujourd'hui, nous avons malheureusement nos faux prophètes. Et ils couvrent divers sujets. Ils faussent, ils tordent le sens des Écritures et ils troublent le peuple de Dieu. Alors il y a une parole de Paul qui est là. Il l'écrit à son collègue Timothée, il lui dit « Éloigne-toi d'un certain nombre de choses, recherche un certain nombre de choses. » Et il dit « Avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Si il était écrit « Éloigne-toi des mauvaises choses, recherche les bonnes. » Avec tous ceux qui invoquent le Seigneur. Moi, ça me va. Et vous ? Ça vous va ? Oui ? Mais l'Esprit de Dieu, qui a inspiré l'apôtre, lui a fait ajouter ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Dites-moi, est-ce que nous pourrions invoquer le Seigneur avec un cœur qui ne soit pas pur ? Apparemment, ça risque d'être possible. Hein ? Dans le sens que ce n'est pas le fait d'avoir des slogans, des boutades, des versets fétiches, qui nous fait avancer. C'est d'être dans une attitude de droiture, de vérité et de lumière. On peut avoir les ritournelles, pentecôtistes, évangéliques, tout ce que vous voulez. Mais ça impressionne pas le Seigneur. Hein. Il faut être dans la vérité. Et la vérité, pas toujours facile, hein. La vérité, parfois, ça coûte un peu, mais ça rend fort. Le mensonge, c'est une pirouette. On retombe sur ses pattes, comme on dit. On est aussi fort que les artistes qui sont au cirque, Cirque du Soleil, par exemple. On retombe toujours sur ses pieds. Mais c'est reculer pour mieux sauter. La vérité, mais Dieu sera toujours avec nous parce que Dieu est un Dieu de vérité. Et il soutiendra toujours ceux qui aiment la vérité. D'ailleurs, il est dit qu'il faut l'amour de la vérité pour être sauvé. Et ça, c'est important. Nous sommes encouragés à mettre notre honneur, à vivre tranquille, à nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Voilà là où nous sommes. Un jour, dans une église, il y a longtemps, et quand j'étais tout jeune pasteur à Casablanca, il y a un frère qui est arrivé à la réunion de prière, et il me dit « Alain, je les ai roulés !» Ah bon? Et qui c'est que tu as roulé? Le fisc. Tu as roulé le fisc? Et qu'est-ce que tu as fait? Une fausse déclaration. Et alors? Ah bien, je viens à la réunion pour demander pardon. Pas compliqué, hein? Mais ça marche pas quand même aussi facilement que ça, hein? Donc la Bible me dit que je dois mettre mon honneur à vivre tranquille et à me conduire honnêtement envers ceux du dehors. Et Jésus va dire, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas un objectif que nous devons nous fixer et qu'il faut tenter d'atteindre. C'est un fait. Je suis sel de la terre, lumière du monde. Je ne suis pas un des deux, je suis les deux. Un jour, dans un rassemblement, il y a un frère qui a, un jeune frère qui a, entre guillemets, prophétisé, et il dit, voilà, tu te crois lumière du monde, tu n'es pas la lumière du monde, la seule lumière du monde, c'est le Seigneur. Waouh, moi ça a bouillonné. Et à la sortie, je l'ai attrapé. J'ai dit, regarde-moi bien en face, je suis la lumière du monde. C'est Jésus qui l'a dit. Eh ouais. Je suis sel et lumière du monde. Alors il y a des gens, bon, ils sont un peu timides, voilà. Ils disent, non, moi je préfère être le sel, je passe inaperçu. Ah, d'autres, non. Lumière du monde, ouais, qu'on le sache quand même, qu'on me voit. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Vous êtes les deux, vous êtes rien. Et c'est important, ça. Parce que nous sommes appelés à donner un sens, une saveur aux choses d'ici-bas. Vous et moi, qui que nous soyons à partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Depuis 8 jours ou depuis 50 ans, pareil, on est sur le même plan d'égalité. Nous sommes invités à devenir une source d'espoir, à lancer un appel, à reprendre cette parole de Jésus. Venez à lui. Tournez vos regards vers lui. Il est le Sauveur, c'est mon rôle, c'est ma mission. Il faut que cette parole, je l'entende. Je ne dois pas m'asseoir dans un coin et pleurnicher « Le monde est mauvais, ma famille est mauvaise, mon quartier est mauvais. » Non, 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 non. Tu es né dans une famille, tu es né dans un quartier, tu es né dans une ville, tu es né dans un pays. Eh bien, là où tu es, tu dois rechercher le bien de ton prochain. Parce que ton bonheur dépend du sien. Tu n'es pas appelé à être, je ne sais comment, excité, là. Non, non, non. Tu es réaliste. Tu es en communion avec le Seigneur qui t'encourage, qui t'arme. Et tu fais ce que ta main trouve à faire avec ta force. Et ça, c'est important. Alors, on a des exemples dans l'Écriture. On pourrait parler de Daniel, de Joseph, de Samuel et de combien d'autres qui, par leur fidélité à la parole, eh bien, ont été des témoins et des moyens de bénédiction. Ils ont été au sein de l'incompréhension, au sein même de l'injustice, voire de la persécution, mais ils ont pu confondre leurs opposants. Vendredi, on a parlé de Joseph. Je vais prendre juste quelques, quelques points concernant Daniel. Daniel, bon, on ne peut pas fixer exactement son âge. Mais quand on voit les rois qui ont régné de son temps, c'est un garçon qui avait entre 16 et 20 ans. Et il a été arraché à sa famille, à ses parents, s'il avait des frères, des sœurs, à ses frères, ses sœurs, à son pays, et il a été emmené esclave. Il s'est retrouvé loin de ses racines, loin de sa culture. Bon, un esclavage, on va dire peut-être doré, parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans une mine de sel, de plomb, de cuivre. Non, parce qu'il était beau de figure, parce qu'il était de sang royal, il a été placé dans une école spécialisée. Il a reçu une formation pour être utilisé plus tard dans l'administration de Babylone. Lui, ses compagnons ont subi même un lavage de cerveau. On leur a donné un autre nom lié à une divinité païenne pour tenter d'éradiquer ce qu'était leur culture. Et il est dit que Daniel pouvait expliquer les songes au roi païen, il pouvait les confondre. Il a gravi les échelons et il est arrivé presque au sommet là, tellement il était sérieux. Ce n'est pas parce qu'il était sur une terre païenne, avec des gens païens, avec des gens méchants, qu'il a fait de fausses additions, de fausses soustractions, de fausses divisions, qu'il a essayé de fausser les comptes du royaume. Non, il a été sérieux. Comme si c'était pour lui. Comme si c'était dans son pays. Et comme il gravissait les échelons, les gens du cru, ben, ils étaient jaloux. Ils disaient, mais c'est un Hébreu. C'est un esclave. Et c'est lui qui me commande. C'est pas normal, ça. Donc, on a essayé de le prendre en défaut. Et on a fait un audit. Un audit sur son travail. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise ici. Et si vous avez déjà été l'objet d'un audit. En général, c'est un mauvais moment à passer. Et plus l'entreprise est importante, plus l'audit va durer. Quelques jours, quelques semaines, voilà. Et l'inspecteur qui arrive, lui, il est payé pour trouver quelque chose. Donc, il va essayer vraiment de bien gratter pour trouver quelque chose. Mais là, c'est des ennemis, des adversaires, des jaloux. Excusez mon expression, ils veulent la peau de Daniel. Et ils examinent tout, ils épluchent tout. Et ils ne trouvent rien à redire. Rien de mauvais, aucune faute. Mais ils veulent se débarrasser de Daniel. Eh bien, on va le terroriser en le piégeant sur sa piété personnelle. Ça, c'est terrible, hein. Et ils vont voir le roi. Et ils disent, voilà, au roi, on a un projet à te soumettre. On aimerait que tu fasses paraître un édit, comme quoi pendant 30 jours, personne n'a le droit de prier. Et si quelqu'un vraiment a envie de prier, ben il te prie toi. Vous imaginez votre pasteur qui décrète que pendant un mois, à Annecy, il est interdit de prier. Qu'est-ce que vous faites? Oula, vous réfléchissez longtemps. Hein. Donc l'édit apparu, interdiction de prier, parce qu'ils avaient repéré que Daniel priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Alors, ce n'était pas de la superstition. Ce n'était pas comme le musulman qui prie en direction de la Mecque. C'était une recommandation de la parole. Si tu es à l'étranger, si tu rencontres des difficultés, etc., et tu pries en direction de Jérusalem. La source de l'espoir, c'est de là que vient la délivrance, c'est de là que va venir le Messie. Et ça, ils l'avaient repéré. Et ils se sont dit, eh bien là, on va l'avoir. Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Seigneur, tu te rends compte ? Il ne faut pas prier pendant 30 jours. J'ai l'habitude d'ouvrir ma fenêtre en direction de Jérusalem et je prie. Donc, si je continue à le faire, ils vont m'attraper, ils vont me tuer. Ce serait quand même moche que tu perdes un serviteur comme moi. Si je ne le fais pas, ils vont m'attraper quand même. Parce qu'ils vont dire, vous voyez, il n'est pas convaincu. C'est un lâche. Il n'a pas de courage. Donc, fichu pour fichu, je vais continuer à faire comme j'ai l'habitude de faire. Et ce qui devait arriver, arriva. Ils ont saisi Daniel en flagrant délit de prière. Non pas de voler l'orange du marchand, hein. Non, non, en flagrant délit d'intercession. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et les lions ont fait la grève de la faim. Ils ont ronronné toute la nuit. Et Daniel, il a bien dormi. Bon, littéralement, c'est un ange qui a fermé la gueule des lions. Le seul qui a mal dormi, c'est le roi. Parce que lui, il appréciait Daniel. Il n'a même pas fait venir une concubine ce soir-là. Et alors, il est allé là. Et à son grand étonnement, Daniel, oh, quelle nuit formidable! Il n'en croyait pas ses yeux, le roi. Et voici que le roi va faire paraître un édit. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes, des prodiges. Dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Formidable ça. Un super message d'évangélisation. Tout simplement parce que Daniel a recherché le bien de la ville où il était. Et pour la petite histoire, quand cet événement s'est produit, puisque on a dit c'était entre 16 et 20 ans, là, il avait 80 ans. Ça faisait 60 ans environ qu'il était sur cette terre étrangère. 60 ans qu'il faisait des additions, des soustractions et qu'il faisait tout juste. Pour moi, c'est... Ça m'interpelle, ça m'émeut. Ce vieillard de 80 ans qui est là fidèle, qui pendant 60 ans a recherché le bien de la population où il était, une population impie, païenne. Mais pour en arriver à un témoignage extraordinaire, remarquable, le Dieu de Daniel, c'est le seul, c'est le vrai, c'est celui qui sauve. Quel témoignage ! Mes frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Nous n'allons pas suspendre nos harpes, nos instruments, en disant « Ouais, mais le monde est mauvais, le monde est méchant, etc. J'ai pas le moral. » Ou alors on ne va pas être excité. Non, on va simplement être normaux. Et on va rechercher le bien de ceux qui sont autour de nous, en mettant notre honneur à vivre tranquille, et à rendre un bon témoignage. On pourrait parler de quelques autres, mais je veux terminer en disant ceci, en parlant juste un petit peu de la Samaritaine et de l'enfant qui avait les cinq pains et les deux poissons. Je dois au monde l'Évangile. Je dois au monde la bonne nouvelle. Et il me faut être comme la Samaritaine ou comme l'enfant qui avait les pains et les poissons. Il est midi, Jésus est au puits de Sichar, les disciples sont en ville pour faire les courses, et une femme vient pour puiser l'eau. Jamais les femmes viennent à midi puiser l'eau. Elles viennent toujours en fin d'après-midi, quand il fait moins chaud, quand le soleil se couche. Mais quand on connaît la vie de cette femme, on comprend qu'elle n'avait pas envie de rencontrer les autres, d'être toisée du regard, elle n'avait pas envie de papoter. Seulement voilà, quand elle s'approche, Jésus qui était là, fatigué, lui dit « Femme, donne-moi à boire ». Elle dit « Mais qui es-tu pour me demander à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine ?» Et Jésus lui dit « Mais si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais posé la question. » Et puis la conversation se continue. Et à un moment donné, elle dit « Oui, mais quand le Messie va venir, il nous expliquera toutes ces choses. » Et Jésus lui dit « Eh bien, je le suis, moi qui te parle. » Waouh ! Et elle pose sa cruche et elle va vers les siens et elle leur dit « Venez, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et les gens viennent. Et ils disent à Jésus « Reste avec nous. » Et il va rester 2 jours. Et ces gens vont croire. Non pas simplement à cause de ce que la femme a dit, mais ils ont entendu eux-mêmes le Seigneur. Et il y a eu là, en Samarie, un véritable réveil, un mouvement spirituel. Mais dites-moi un peu, les disciples aussi, ils étaient allés au village. Ils étaient allés à Auchan, à Leclerc, à Super U, à la petite supérette du coin qui est ouverte jour et nuit. Mais ils étaient passés inaperçus, comme l'eau, hein, incolore, inodore. Bon, c'était des disciples sérieux. Ils n'avaient pas oublié la liste des courses. Ils avaient bien vérifié, papier hygiénique, etc., etc. Ça y est, tu l'as pris, oui, c'est bon. Ouais, ils étaient sérieux. Hein. Mais rendre témoignage aux Samaritains, jamais de la vie. Jamais de la vie, ce sont des Samaritains. On n'a pas de relation avec les Samaritains. D'ailleurs, c'est ce que la femme a dit. Je suis Samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous, Juifs et Samaritains. On ne s'apprécie pas. Donc les disciples, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, sérieux, consciencieux, pas de problème, honnête, droit. Mais parler de Jésus-Christ aux Samaritains, jamais de la vie. Dites-moi, parler de l'Évangile à ce musulman-là, parler de l'Évangile à ce voyou-là, on trie un petit peu à qui on va parler. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je cite juste cet exemple. Quand j'étais pasteur à Limoges, il y a une jeune fille qui est venue à l'église. Alors, c'est l'église qu'on avait avant. Donc, il y avait une grande allée centrale. C'était une moquette. Il y avait 300 chaises, là. Et il y avait une grande allée centrale avec une moquette rouge. Et la fille, elle est arrivée. Et au milieu, pof, elle s'est assise en tailleur. Et quand on me connaît, moi, je veux dire, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais rien dit à cette fille. Je ne lui ai jamais dit, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous pousser un peu, les gens, mettez-vous sur une chaise. Je ne lui ai pas dit. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas fait. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça a duré 3 ou 4 mois, ça. Toutes les réunions, elle venait, elle s'asseyait en tailleur au milieu de l'allée. Et je ne lui ai jamais rien dit. À Rien que ça, c'est miraculeux. Et puis un jour, elle s'est assise sur la chaise. Et là, je suis allé la voir et je lui ai dit, tiens, vous êtes rendu compte qu'il y avait des chaises quand même. Elle me dit oui. Elle me dit, pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais si vous m'aviez fait une réflexion avant pour me dire, c'est pas là qu'on s'assoit, c'est là, je ne serais plus jamais venu. Je l'ai baptisée, j'ai célébré son mariage. Elle s'appelle Raphaël Mété. C'est la femme du missionnaire que nous avons au Vietnam. Voilà. Tellement facile de dire à lui on parle pas. Lui, il vient à l'église, mais il ne se comporte pas comme il faut, donc on va lui dire que s'il continue, il vaut mieux qu'il reste dehors. Un jour, il y a un jeune homme. Dans son église, il a amené des prostituées, des ivrognes. Et les anciens de l'église, une fois, deux fois, trois fois, ils ont attrapé le jeune homme et ils lui ont dit, jeune homme, ces gens-là, il ne faut plus les amener. Ça nous dérange. Leur tenue, leur odeur, leur comportement. Et le jeune homme, il n'est plus venu à l'église. Il n'a plus amené les gens, mais il n'est plus venu lui-même. Mais il a continué à s'occuper de ces gens. Il s'appelait William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Ça serait tellement facile de dire celui-là, celle-là, non, non, non. Mais je dois rechercher le bien de chacun. Ce n'est pas simplement le fait d'être poli, correct. Bon, c'est bien, hein, il faut. Mais je dois l'évangile à chacun. Un réveil était dans le cœur de cette femme. Quelqu'un a dit, brûlez, on viendra vous voir brûler. Cette même personne a dit, à la Pentecôte, 120 buissons avaient pris feu. Et les gens étaient là, ils regardaient, ils ne comprenaient pas. Il y en a qui se sont moqués. Mais quand Pierre a expliqué, on a fait 3000 baptêmes. Eh oui. Et là, vraiment, je termine. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait quoi, ça? 15 000, 20 000 personnes, grosso modo. Jésus leur parle. Puis à un moment donné, comme peut-être quelqu'un aurait envie de me le dire, Jésus, tu devrais dire Amen. Est-ce que tu as vu l'heure? Il se fait tard. La nuit vient. Il faut que les gens ils se dispersent. Il faut qu'ils aillent trouver à manger. Il faut qu'ils voient où ils vont se loger. Donc, tu es un peu long là, hein, Jésus. Ah, Jésus dit, c'est vrai, vous avez raison. Donnez-leur vous-même à manger. Attends, Seigneur, c'est pas ça qu'on a dit. Oui, mais moi, c'est ça que je vous dis. Donnez-leur vous-même à manger. Mais comment tu veux qu'on leur donne à manger? On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et regarde, il n'y en a même pas assez pour nous. Oui, mais je vous dis, donnez-leur à manger. Alors, ils sont là. Apportez-moi les pains et les poissons. Et quand les pains et les poissons ont été dans les mains du Seigneur, et qu'il a rompu le pain, rompu les poissons, se sont multipliés. Et tous ces gens ont mangé et ont été rassasiés. Il est dit dans, il y a deux récits, on les a mis par groupe de 50 et on a apporté. T'en veux encore? Oh, un peu plus. Donc c'était pas juste un petit quelque chose là pour les caler. Non, 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 ils ont mangé. C'est pas à table, 20 000 personnes qui débarquent, grosse panique, des gens piétinés. Non, non, ça s'est fait avec ordre et bienséance. Tout le monde a mangé. Et il est resté 12 paniers. 12 paniers. Un panier par apôtre. Pas beau ça? Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors bien sûr, vous pouvez peut-être dire... Ouais, pasteur, ce que vous avez dit, c'est intéressant. mais nous n'avons qu'eux. Et on va faire la liste de ce qu'on a et surtout de ce qu'on n'a pas. Nous n'avons qu'eux. Pas de problème. Ce nous n'avons qu'eux, mettez-le dans ses mains. Et lui va nous étonner. Et lui va nous surprendre. Vous savez, il faut rester comme l'enfant. Il faut attendre à être surpris, étonné, à découvrir. Moi, j'ai ma petite fille qui vit à la maison. Et quand je rentre comme ça, je m'en vais plusieurs jours. En général, elle me dit, « Papy, tu m'as ramené quoi ?»« Ouais, ben attends que j'arrive. Que... »« Non, 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 papy, montre-moi, s'il te plaît. » Voilà. Et même des fois, c'est une babiole, parce qu'à force de ramener, je ne sais plus quoi ramener. Pour pas que ça soit en double ou en triple. Mais pour elle, c'est... Voilà. Ben, il me faut cette simplicité de l'enfant. Vouloir être encore surpris, étonné par le Seigneur. Je n'ai que, pas de problème, mets-le dans ses mains. La femme, elle avait qu'un peu d'huile au fond du vase. Le prophète lui dit, envoie tes enfants chercher des vases et un grand nombre. Bon, c'est un peu surprenant, mais bon, elle verse. Et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Hop, le vase, il est plein. Passez-moi un autre. Ça coule, ça coule, ça coule. Et il est plein. Encore un. Encore un. Il n'y en a plus. Comment il n'y en a plus? Parce qu'à un moment donné, à la grâce de Dieu, on s'y habitue. Hein? Au miracle de Dieu, on s'y habitue. Les vases se remplissaient, elle aurait fait couler l'huile toute la journée, elle. Mais il n'y en avait plus. Bon, l'huile, elle s'est arrêtée de couler. Ça ne s'est pas gaspillé. Ça ne s'est pas répandu sur le sol. Il n'y a pas de gaspillage avec Dieu. Mais elle a pu vendre, elle a pu payer sa dette, et ce qui restait, elle a pu vivre. Voilà. Vous n'avez que, mettez-le dans ses mains. Recherchez le bien d'Annecy et de ses environs. Ça, c'est la volonté de Dieu. J'imagine que vous l'avez déjà fait, mais faites-le encore davantage. Et Dieu va vous étonner. Dieu va vous surprendre. Que son nom soit béni. Amen.